entre les sushis et aujourd'hui les pokés, c'est vrai que ça devient une protéine du quotidien, le saumon ou le thon cru. Or, bah, on le disait, ce sont des produits qui ont une saisonnalité. On parle beaucoup des produits de saison pour tout ce qui est végétal. On en parle moins pour les protéines animales.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Avez-vous remarqué comme souvent dans les villes, il y a ces locaux qui ouvrent et qui ferment au rythme du business et de l'activité attractive du moment ? Pendant 6 mois, ils proposent de réparer les écrans de nos téléphones lorsqu'on les fait malencontreusement tomber sur un coin de la table basse. L'année d'après, ils se mettent à vendre des cigarettes électroniques. Ensuite, ils ravalent leur façade, la peinturlure d'un noir profond et d'un vert chlorophylle et proposent alors du CBD. Dans cette même catégorie de locaux, on trouve une grande partie des vendeurs de Pokéballs. Vous savez, cette spécialité qui, on va se le dire tout de suite pour dissiper le moindre doute, n'a rien à voir avec la franchise Pokémon, mais qui a fleuri dans les pauses déjeuner citadines comme nouvelle alternative équilibrée. Un Pokéball, c'est un triptyque en général de poissons crus, de légumes froids et une base de riz ou de céréales. Ça donne donc des protéines, des fibres et des glucides dans un même plat que l'on peut personnaliser à souhait. Et ça peut plaire à celles et ceux qui en ont marre d'avoir du gluten comme horizon indépassable de la street food, veulent manger équilibré ou encore prendre un plat à emporter qui ne risque pas de tiédir puisqu'il se mange de toute façon froid. Il y a donc un alignement des astres pour que ce produit soit un succès marketing. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas avec les urgences de notre époque. Souvent, on trouve dans les Pokéballs tels qu'ils sont vendus dans le commerce du thon, du saumon, de l'avocat et de la mangue. Autrement dit, des ingrédients qui viennent de loin ou dont la consommation devrait obéir à une certaine saisonnalité. Or, le paradoxe est là. Au commencement du Pokéball, il y a une recette hawaïenne très éco-responsable puisque le poisson cru utilisé est forcément celui qu'on arrive à pêcher au large de l'archipel. Comment donc une spécialité locale respectueuse de l'environnement a-t-elle pu devenir un plat à succès dans de grandes métropoles comme Los Angeles, Londres, Toronto, Sydney et Paris ? Dans cet épisode, nous allons décrypter les raisons de ce succès et le défi qu'il y a aujourd'hui à revenir à l'essence du Pokéball, celui d'un plat durable, symbole d'un certain locavorisme. Pour discuter de tout ça, je reçois Marie-Pierre Membrive. Avec sa formation d'ingénieur agroalimentaire, Marie-Pierre Membrive est experte de la restauration commerciale et a cofondé Taste Buds, qui accompagne les professionnels de la restauration. J'ai commencé par lui demander de nous expliquer pourquoi il y a aujourd'hui des Pokéballs partout, dans nos villes et nos zones périurbaines.
Le Pokéball, il est quand même à la croisée de plein de tendances qu'on observe dans l'alimentaire depuis quelques années. Tout d'abord, il est servi dans un bol. Et si le bol est utilisé de manière traditionnelle dans plein de plats, notamment en Asie, on pense au donburi, au katsudon au Japon, on va penser au bobun, par exemple, qui sont servis dans des bols, on voit que le bol est en train d'envahir notamment la restauration rapide, chaînée. On sert les salades dans des bols, on sert des tonnes de plats, des Buddha bowls depuis quelques années, des acai bowls. Et du coup, il y a un côté pratique dans le bol. On a sa portion, c'est pratique pour le service, c'est pratique à transporter, c'est pratique à livrer. On peut lui mettre un couvercle. Donc, il y a un côté praticité, convenience, ce qu'on dit beaucoup dans la restauration, qui est étroitement lié au fait qu'aussi, on a de moins en moins de temps pour manger, notamment au niveau du déjeuner. On a quand même perdu 1 heure de temps de pause déjeuner en moyenne en France en 40 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Et quand on a à peine plus d'une demi-heure pour manger, c'est vrai qu'avoir quelque chose pratique à transporter et à manger, ça aide. Donc, déjà, le Pokéball est dans un bol. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est un repas complet. Il y a une base qui est constitué de féculents, il y a des légumes, il y a une protéine, il y a aussi ce contraste de goût, de couleur, de texture, qui fait que c'est un plat qui est intéressant sur le plan organoleptique au moment de la consommation. Et puis, on mange beaucoup avec les yeux. Et c'est un plat qui est aussi très attirant sur le plan visuel. Il est très instagrammable, comme on dit. Du coup, c'est vrai qu'il est beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, il attire attire l'œil. Ça change de certaines salades un peu tristes ou de certains plats un peu punitifs qui n'attirent pas le regard. Et puis, il est aussi synonyme de fraîcheur. Et le consommateur est à la recherche de plus en plus de signes tangibles de fraîcheur, de qualité, de préparation minute. En général, il est assemblé devant le client et il est assemblé au moment de la commande. Donc ça aussi, c'est une case de plus qui coche par rapport aux attentes des consommateurs. Et puis, c'est aussi un plat santé, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est quand même un produit qui est élaboré à partir de produits bruts, peu de produits transformés entrent dans sa composition. C'est plutôt léger. Bon, faut quand même faire attention au type de sauce, à la quantité de sauce, à la quantité de féculents. Mais voilà, c'est un plat qui est complet, roboratif et en même temps santé. En plus, ce qui est quand même chouette, c'est qu'il est déclinable à l'infini. On parle beaucoup de personnalisation. Donc là, on peut vraiment, dans la plupart des enseignes, composer son bol comme on le souhaite. Et en même temps, si on n'est pas un expert de l'association d'ingrédients, il y a toujours des recettes signatures qui sont recommandées par les enseignes qui permettent de s'initier et puis peut-être de trouver sa recette fétiche.
On peut peut-être aussi se poser la question de pourquoi il y a autant de boutiques qui se mettent d'établissements monoproduits qui vendent désormais des Pokéballs. J'imagine que s'il y en a autant, c'est d'une part parce que la mode est bien présente, mais d'autre part parce que le business model aussi doit être plutôt intéressant. Au fond, il n'y a pas besoin d'une grande cuisine, il faut juste les produits. Pour faire tourner une boutique, en gros, il faut avoir les produits de base, les produits simples, et puis quelqu'un derrière un comptoir quoi, pour assembler ça à la chaîne.
Alors c'est vrai que les enseignes de Pokéball ont une plus grande facilité à s'installer que d'autres parce qu'elles n'ont pas besoin d'extraction. C'est le nerf de la guerre. Quand on cherche un local pour s'installer en restauration, il faut bien souvent une extraction pour les fumées issues des cuissons. Et là, globalement, à part cuire la base, le riz, il y a très peu de cuissons. Donc on peut s'installer dans un local qui n'a pas d'extraction. Donc c'est déjà un vrai avantage. Ensuite, effectivement, qui dit pas de cuisson dit moins d'équipement, moins d'investissement dans la cuisine, dit également moins de place nécessaire pour la préparation et puis aussi la possibilité d'avoir recours à du personnel qui est peut-être moins qualifié, qu'on peut former sur la préparation plus simplement. Et du coup, on a aussi un concept qui est plus facilement réplicable. On voit aujourd'hui des chaînes de poké qui émergent. Je pense que c'est beaucoup plus facile de dupliquer un produit où les cuissons sont limitées, même si, attention, bien sûr, il va falloir faire très attention aux assaisonnements, aux ratios entre les différents ingrédients, etc. Mais c'est des choses qu'on arrive davantage à normaliser sur des procédures opérationnelles que des cuissons, un niveau de cuisson sur du poisson, typiquement, c'est très technique. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir que dans la restauration, on a énormément de mal à recruter et fidéliser son personnel.
Oui, il y a un gros turnover dans le personnel de cuisine en général. Donc là, j'imagine qu'ouvrir une boutique de Pokéball, ça permet aussi de peut-être prendre différents types de profils et de pouvoir compter sur leur taux d'adaptation qui va être assez rapide.
Absolument. Et puis, les former à ces recettes, à ces produits, à quand même reconnaître, bien sûr, la qualité des ingrédients, notamment parce que dans le poké, ils sont très peu transformés, d'où l'importance d'avoir un sourcing d'ingrédients de qualité.
Et alors, des ingrédients de qualité, justement, parlons-en. Ils peuvent être éventuellement de qualité, mais ça restera quand même toujours du thon, de l'avocat, du thon rouge ou du saumon. Donc des produits, on l'a dit tout à l'heure, qui ont une saisonnalité et qu'on n'est pas censé non plus avoir tout le temps, toute l'année, ici en France.
Absolument. C'est vrai qu'avec l'avènement du poké, qui fait suite quand même à l'avènement du sushi, un qui a, on va dire, démocratisé la consommation de poissons crus en France. Je pense que, alors, dans mon enfance, on n'aurait jamais imaginé donner des sushis à un enfant. Aujourd'hui, moi, mes fils, ils mangent du poisson cru. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est vraiment rentré dans les mœurs. C'est, le poké permet de faire découvrir de nouveaux usages du poisson cru. Mais effectivement, si on y réfléchit bien, le saumon, il y a quelques années, c'était un poisson d'exception. On n'en mangeait pas tous les jours. Idem pour le thon, quand on ne parle pas de thon en boîte, le thon frais, c'était aussi un poisson d'exception. Et aujourd'hui, entre les sushis et aujourd'hui les pokés, c'est vrai que ça devient une protéine du quotidien, le saumon ou le thon cru. Or, on le disait, ce sont des produits qui ont une saisonnalité. On parle beaucoup des produits de saison pour tout ce qui est végétal. On en parle moins pour les protéines animales. Mais il y a des saisons de pêche pour ces poissons. Et quand on en consomme toute l'année, ça suppose qu'on risque davantage d'épuiser les ressources naturelles ou d'avoir plus recours à du poisson d'élevage ou du poisson importé qui a parcouru des milliers de kilomètres dans des conditions réfrigérées, parfois en avion, avec tout ce que ça a comme impact sur l'environnement.
Donc l'empreinte écologique des Pokéballs est forcément très forte.
Alors je dirais pas forcément ça. Il y a des enseignes qui sont engagées pour se fournir auprès de fournisseurs de poissons issus de pêche durable, qui jouent avec les saisons, notamment sur les légumes et les fruits qu'ils vont mettre en topping. Faut quand même mettre le Pokéball dans l'environnement global de la restauration. Il reste quand même bien plus durable qu'un plat à base de viande rouge, notamment importée, etc. Donc, effectivement, il y a des questions qui se posent par rapport à la durabilité autour du saumon, autour de l'avocat. Et l'avocat est présent dans beaucoup de recettes de Pokéballs. Mais il y a des moyens alternatifs de mettre de la couleur, du vert sur les Pokéballs. C'est le concombre, c'est des choux, c'est de la courgette en fonction des saisons.
Est-ce que peut-être qu'on peut imaginer un Pokéball avec une empreinte écologique à peu près OK ? Par exemple, pas d'avocat dedans ? Pas forcément du chinchard, par exemple, comme poisson. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Enfin, vraiment avec des légumes de saison, quoi. On peut peut-être imaginer quelque chose
oui,
comme
absolument.
Ça.
Oui, absolument. On pourrait même imaginer, et c'est le cas dans certaines enseignes, un menu qui évolue au gré des saisons. Et puis, peut-être la mise en avant de recettes qui soient vraiment la recette phare de la saison, avec les ingrédients les plus durables. On pourra renseigner le consommateur sur la provenance et les conditions de pêche, d'élevage ou de culture des ingrédients. Je pense que le consommateur, de toute manière, va être en demande de davantage de transparence dans l'univers de la restauration. On voit que dans l'univers de la distribution alimentaire, les consommateurs sont de plus en plus armés de leur téléphone, en train de scanner des codes-barres dans les allées des supermarchés.
Avec l'application Yuka, notamment.
Ou d'autres, comme ScanUp, par exemple, qui donnent des informations complémentaires. Effectivement, le consommateur est en demande de compréhension sur ce qu'il mange, l'impact que ça peut avoir sur sa santé, sur la planète. Et il faut dire qu'en restauration, ça reste quand même très, très flou. Moi, je ne serais pas surprise que dans les années qui viennent, on ait des applications équivalentes qui se développent pour la restauration et que des enseignes de restauration délibérément soient plus transparentes sur leurs approvisionnements, leurs méthodes de préparation, etc. Du coup, ça va changer un peu la donne.
Aujourd'hui, on a quelques labels du type le label fait maison ou alors, c'en est pas un, mais quand le restaurant promet en tout cas qu'il cuisine avec des ingrédients locaux, proposant une cuisine vraiment locavore. Donc, on a des petites indications comme ça, mais effectivement, ça reste quand même grosso modo assez flou. On ne peut que se fier à l'enseigne, à ce que le restaurateur a bien voulu nous écrire sur sa devanture.
Absolument. Donc, l'avantage avec le Pokéball, c'est que c'est quand même préparer devant soi. Donc sur la question de la fraîcheur, du fait maison, c'est quand même peu discutable. Après, effectivement, sur l'origine des ingrédients, sur les conditions dans lesquelles ces ingrédients sont produits, on a certaines enseignes qui font des efforts de transparence, mais ça reste quand même léger dans le poké comme dans les enseignes de restauration au sens large.
En fait, il y a vraiment deux types de Pokéball. Il y a, on va dire, la grande majorité des enseignes qui, on ne sait pas exactement en fait où elles vont chercher exactement les produits. Et du coup, quand on commande auprès de ces enseignes-là et qu'on a dans son bol du thon, de l'avocat, de la mangue, du saumon, on peut se dire waouh, c'est un peu tous les ingrédients dont on parle qui ont une empreinte écologique forte. Et à côté, j'imagine oui qu'il y a aussi les enseignes qui font vraiment attention à ce qu'elles proposent. Et d'autant plus que quand on y réfléchit, le Pokéball, à l'origine, c'est quelque chose de très locavore, puisque l'idée, c'était de prendre les ingrédients qu'on trouvait sur l'île, vraiment sur Hawaï. Et c'est pour ça que dans la recette traditionnelle, on trouve vraiment les ingrédients du coin, quoi. Donc, les algues... le poisson mariné dans de la sauce soja, des noix de cajou, des oignons. En fait, il faudrait garder le même esprit.
Absolument. Et du coup, peut-être l'adapter encore davantage à ce qu'on peut trouver chez nous, d'un point de vue local, ce qu'on va pouvoir trouver peut-être en circuit court, direct producteur, pour limiter les intermédiaires et l'impact. Effectivement, il y a une vraie question qui se pose sur le Pokéball 2.0 qui sera peut-être plus durable et peut-être plus ancré dans la saisonnalité des ingrédients en Europe. Voilà, on est en France, on n'est pas à Hawaï, c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes produits qui sont cultivés sur le plan local. Donc ça pose effectivement des questions, mais certains y ont déjà réfléchi, et effectivement on voit des ingrédients aujourd'hui dans les Pokéballs qui rendraient furieux des Hawaïens parce que ils n'ont jamais vu ça chez eux. Et d'ailleurs, bon, faut quand même rappeler que initialement, le poké, c'est même pas un bol, c'est juste le poisson mariné. Donc, il y a déjà eu une première phase d'adaptation, on va dire, qui est née en Californie. Et puis là, on observe avec la globalisation du poké des interprétations locales qui effectivement font la part belle aux ingrédients qui sont récoltés ou aux protéines qui sont élevées localement.
Oui. J'ai vu qu'en 2018, le Pokéball faisait partie des plats les plus commandés dans différents pays. Et précisément à Amsterdam, par exemple, dans la ville d'Amsterdam, ça a été vraiment le plat le plus commandé. Pour donner d'autres exemples, les sushis, ça a été le plat le plus commandé à Dubaï. Le cheeseburger, le plat le plus commandé à Londres. Le pad thai à Paris. Le burrito à Barcelone ou encore le bubble tea à Hong Kong. Et est-ce que tu penses que du coup, le Pokéball, en fait, va au-delà de la mode? Là, t'as répondu à la question pour la mode, mais est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va vraiment s'inscrire durablement dans notre paysage?
Écoute, je pense que ça a le potentiel, ouais, de s'inscrire dans notre paysage. Alors, c'est marrant, tu parles du hamburger, un sujet que je connais très bien. Dans les années, au début des années 80, il y a plein de gens qui ne prédisaient pas un avenir radieux au hamburger en France pour différentes raisons, mais notamment culturelles, attachement à notre patrimoine gastronomique français. Et pour autant, quand on voit 30, 40 ans après le hamburger inscrit aux cartes de nombreuses brasseries, restaurants traditionnels, voire gastronomiques, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Je pense que il y a une vraie ouverture et une appropriation de certains plats qui ne sont pas traditionnels de chez nous. Et ce Pokéball, il a une vraie légitimité à s'ancrer dans une consommation régulière parce que il accommode finalement des ingrédients qu'on connaît, qu'on apprécie et qu'on n'avait pas pas forcément eu l'idée de combiner comme ça jusqu'à présent, mais qui plaisent et qui peuvent en plus s'accommoder de mille façons. Alors bien sûr, tu parlais de l'assaisonnement plutôt sauce soja, huile de sésame, plutôt traditionnellement utilisée dans le poké, mais on voit que certains vont essayer de le réancrer aussi dans notre patrimoine culturel avec des sauces qui sont plus des genres de vinaigrettes où on va peut-être parfois retrouver de la moutarde. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de moutarde à l'ancienne à Hawaï. Et puis parfois des touches méditerranéennes. Donc on est aussi en France aux confins de plein de cultures culinaires qui peuvent se cristalliser dans ce pokéball.
Le succès des pokéballs et l'hybridation constante des tendances alimentaires dont parle Marie-Pierre Montbrive me font penser à ce que Subway a été dans mes années lycée. Je me souviens à l'époque avoir vécu l'arrivée de cette offre comme un vrai changement. La possibilité de choisir le pain, les ingrédients, la vinaigrette, bref, le fait de pouvoir personnaliser son déjeuner, c'était très nouveau. En tant que grande amatrice de poissons crus marinés, j'espère que l'on verra de plus en plus d'enseignes de pokéballs soucieuses d'une pêche durable. Et puis peut-être que si on change tous les ingrédients, ça ne sera plus exactement le pokéball que tout le monde a en tête aujourd'hui. Ça sera alors un simple ceviche ou une salade qui portera un autre nom. Au fond, le principe même du pokéball est une suite de variantes qui évoluent depuis les années 2010 sur un axe bien différent de celui de la cuisine traditionnelle hawaïenne. Mais quitte à appeler ces spécialités des pokés, ne mettons pas un accent aigu sur le « e ». Il n'y en a pas, nous rappelle le chef Marc Noguchi. Ce chef s'agace de voir le mot « poké » malmené à travers le monde. Il écrit « Tout le monde parle de pokéball et c'est une bonne façon de mettre la cuisine hawaïenne sous le feu des projecteurs, à condition qu'on veuille bien en profiter pour réellement s'intéresser à la cuisine hawaïenne, auquel cas la discussion commence par quelques considérations simples mais qui ont toute leur importance. » On n'écrit pas poké avec un E accent aigu, mais simplement poké, P-O-K-E. Et à Hawaï, il est intéressant de noter qu'on ne parle pas spécialement de pokéball, mais simplement de poké, puisque le fait de manger dans un bol est quotidien ici. Et cela nous vient des noix de coco, qui sont des bols naturels tout à fait communs dans l'histoire de notre alimentation. Fin de la citation. Merci à Marie-Pierre Montbrive de nous avoir donné de son temps pour parler de Pokéball. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Charles Niao. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Maillot.